Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Paris brûle-t-il ? Question de Hitler à son commandant de la place de Paris en 1945, après les bombardements que le Führer avait ordonné. Avec ce titre, Collins écrit un roman sur la libération militaire. Plus tard, en 1966, Clément, avec l'aide du génial Coppola, en fait une version cinématographique de cette libération de Paris. Quatrième élément, Mireille Mathieu. De sa voix gutturale et méridionale, roulant les airs, qui chante aussi « Et le monde tremble quand Paris est en danger, et le monde chante quand Paris s'est libéré. Après la tempête, après la peur et le froid, Paris est en fête, et Paris pleure de joie. » Il me manque une référence importante, le Christ, qui est venu apporter le feu sur la terre, dont le seul désir est que ce feu brûle en flamme. Mais tout de suite, pour poursuivre notre introduction à la méditation, tout de suite nous savons très bien qu'il faut distinguer entre froid et froid, entre chaud et chaud, car ce n'est pas du tout pareil. Il y a un froid qui conserve, qui préserve, qui n'est pas le froid dévastateur qui glace, qui congèle, qui paralyse toute activité. Ce n'est pas la même chose, la lumière qui rend, c'est la lumière du matin, c'est la lumière du coucher, du soleil, n'est-ce pas, qui donne un éclairage, les photographes le savent bien, qui embellit la nature, les ombres, les bâtiments, les monuments. C'est pas la même lumière que celle qui éblouit excessivement, rendant presque même aveugle. Ce n'est pas la même chose, l'eau qui donne la vie, qui hydrate, que l'eau qui inonde, qui engloutit. La reconstruction de Notre-Dame, c'est la seule idée de notre méditation, la reconstruction de Notre-Dame est emblématique de ce que peut signifier la reconstruction du catholicisme européen. Ce catholicisme, depuis quelques années, les plus hautes autorités le disent, nous ne découvrons rien du tout. Mais c'est vrai que cette foi qui est la nôtre en Europe est effondrée, un petit peu en cendres, paralysé, comme Notre-Dame de Paris, oui, qui va être l'image qui va nous éclairer pendant toute la méditation. Ce bâtiment, ce monument extraordinaire qui est un petit peu l'ombre de ce que cela a été pendant plus de 8 siècles. Le catholicisme un peu brûlé, un peu effondré, un peu paralysé. Il n'y a pas beaucoup de catholiques. Pas assez, pouvons-nous dire. Les catholiques ne pratiquent pas tous beaucoup. Ceux qui se disent pratiquants, peut-être toi et moi, eh bien, parmi eux, j'espère que c'est parmi eux et pas parmi nous, parmi eux, certains qui se permettent de s'opposer à la doctrine de l'Église, à jouer un petit peu au gilet jaune. Pas la moindre allusion politique, sincèrement. Qui trouble, qui perturbe. Le peuple fidèle est un petit peu dévasté, effondré, comme notre cathédrale. Qu'allons-nous faire, nous, catholiques, rassemblés pour faire un moment de prière? C'est magnifique, hautement positif ce que nous sommes en train de faire ici. On voudrait tellement que ça soit vrai. Parce que nous, catholiques, eh bien, pour reconstruire Notre-Dame, nous allons peut-être apporter quelques euros, si on en a. Mais pour reconstruire le catholicisme européen, parce que on centre la méditation plutôt sur l'Europe, sur la France, sur Paris, puisque Notre-Dame est emblématique pour Paris, pour la France, pour l'Europe. Le monument le plus visité d'Europe, semble-t-il, c'est confirmé, c'est comme ça. Et nous avons vu de nos yeux, directement, parce qu'on est sur place, nous avons vu ce feu qui brûle, qui est tellement efficace, qui est tellement dévastateur, lorsqu'il est utilisé à un mauvais escient, pas. Mais nous connaissons aussi, et là nous sentons plus concernés dans notre prière, par un feu qui est apparemment moins agressif, moins nocif, moins violent. Mais le feu de l'indifférence, qui est cruel aussi. Nous avons dit rapidement, les gens pratiquants, pas pratiquants, dans quelle catégorie je suis, je ne sais pas, pense-y, pense à toi, à ta vie de prière, à ta vie de piété, à ta vie sacramentelle, bien. Et là-dedans, tu dis, est-ce que je suis un petit peu indifférent aux affaires de l'Église, aux affaires du Christ sur terre? Et si jamais je suis un petit peu indifférent, je suis le Christ comme Pierre pendant la Passion. On l'a médité la semaine dernière, d'un peu loin, je suis tiède, j'ai froid, et je me réchauffe, et je suis pas capable de monter au créneau, et de me battre pour l'Église, me battre pour la foi. Et mon indifférence est mortelle aussi, à coup sûr, même s'il n'y a pas cette agression évidente. Et le feu de la tiédeur, encore pire. C'est paradoxal de dire le feu de la tiédeur. Le feu est toujours chaud. Eh bien, moi, je peux me laisser démolir et tomber dans la tiédeur et que l'effet du feu, eh bien, ne soit pas celui qui devrait être, mais... La tiédeur tue, la tiédeur ensevelit aussi. Paris brûle-t-il, Notre-Dame brûle-t-il, le catholicisme en Europe, en France, à Paris, brûle-t-il? Est-ce qu'il brûle? Quel est le plus facile? Je termine l'introduction. Quel est le plus facile de se débarrasser des nazis? Ou bien de la stupidité, de l'indifférence, de la tiédeur des chrétiens, de la malveillance peut-être de certains. Malveillance, je pense à ceux qui ne vivent pas l'unité avec le Saint-Père, avec les évêques, avec les pasteurs, qui trouvent toujours des raisons pour ne pas vivre cette union qui est tellement nécessaire. Il faut serrer les coudes, le moment est magnifique. C'est l'idée de la méditation. Le moment est magnifique pour prendre la foi, la pratique, à bras le corps, pour faire et refaire l'Église. J'ai quelques références. La première que je vous apporte, c'est de François Cheng. Ce Chinois, vous connaissez, venu en France très jeune, si je ne m'abuse pas, élu à l'Académie française. Et j'ai écouté une petite interview de ces jours-ci qui m'a beaucoup plu. Il n'a pas parlé du catholicisme, il n'a pas parlé de la foi catholique, de l'Église catholique, mais il a parlé de Notre-Dame, du feu, et puis c'est un poète, c'est un littéraire, c'est un homme d'esprit, en disant que cet incendie, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec ce que je vais dire, synthétisant un petit peu sa longue interview. Mais c'est un moment, on est d'accord, absolument historique, on est d'accord. D'abord, cette cathédrale existe depuis 850 ans. Jusque-là, dit-il, il n'avait jamais eu de vrai incendie. Et le 15 avril, cette flamme qui surgit de ses entrailles montait vers le ciel. Et elle est inoubliable, cette flamme. C'est un niveau de lecture très simple. À un niveau un petit peu au-dessus, dit-il, si j'ai bien compris, il y a cette intense émotion qui s'est emparée de chacun. Chacun a été sidéré, désespéré, dit-il, c'est le terme qu'il utilise. Mais cette émotion, ce désespoir n'est pas individuel, il a été partagé par les autres, par tout un peuple et même par le monde entier. Et cela nous a entraîné dans une communion universel. Certainement, c'est très vrai, on l'a éprouvé tout de suite, au-delà des croyances, des fois, des religions, des nationalités, communion universelle. Et ça, pour l'académicien, est important de constater et d'analyser un petit peu, je ne le fais pas ici, qu'est-ce qui peut provoquer une communion. À un degré encore plus haut, poursuit-il, suprême même, le peuple français a eu une révélation. Ce monument-là, et pas un autre, incarne notre âme commune. Ce monument est chargé de spiritualité, d'histoire. Toi et moi, nous ajoutons de foi, évidemment, surtout. Ce monument est fait de pierres vivantes. L'image est sympathique, elle est connue, hein. Elle est du Nouveau Testament. Mais toujours ces pierres vivantes que le jour lorsque nous pensons à la fête de Saint-Pierre, à l'élection de Saint-Pierre, les textes qui viennent, oui, nous sommes des pierres vivantes. Bien. Mais là, c'est bien que cette personne-là dise ce monument fait de pierres vivantes dont toi et moi faisons partie. Et il dit que jamais, eh bien, notre cœur n'a jamais cessé de battre à Notre-Dame, dans Notre-Dame, pour Notre-Dame. Bâtiment, et toi et moi, catholiques pratiquants, nous disons, bâtiment et Vierge Marie. Oui, nous avons cessé d'aimer notre mère. Cheng poursuit par d'autres sentiers en disant que Notre-Dame est un lieu tout rempli de beauté et de vérité, on est d'accord ? Mais nous savons de quel type de beauté surtout et de quelle vérité surtout c'est rempli. Si on avait participé à l'interview, on serait peut-être intervenu en disant des choses. Notre-Dame, dit-il, réunit la beauté et la vérité de toute la France qui est concentrée là. Notre-Dame, c'est l'honneur de la France qui réunit beauté et vérité. Il se répète et moi aussi avec. Et là, il s'est permis, et je termine avec ce vénérable monsieur, une remarque personnelle, ajoute-t-il. Notre-Dame est une présence maternelle. C'est ce que j'ai aimé le plus. Parce que c'est vrai. Cette présence maternelle. Et là, il fait un petit excursus en disant, il pense certainement à sa mère. Nous pensons à la nôtre. Maintenant, nous savons ce qu'est l'amour maternel. C'est quelque chose de naturel, dit-il, de normal. On en jouit, on en profite, on en abuse même parfois. Eh que oui. Mais sans trop s'en soucier. Et je pense que c'est très important de dire, oui, ce 15 avril, peut-être nous avons eu ce sentiment qu'à l'égard de Notre-Dame, la Vierge de notre Mère, et le monument, eh bien, nous l'avons visité, nous avons pris des photos, nous avons accompagné des gens, des explications savantes, tout ça, mais que cette Mère, nous l'avons peu soignée, nous l'avons peu caressée, câlinée. Et là, quelques flammes qui ont été sur le point de nous arracher un petit peu cet amour maternel. Et donc, et on a le regret infini, comme lorsqu'on perd un être cher toujours, on a le regret de dire, j'aurais pu l'aimer, nous avons perdu dans cette maison un habitant de la maison, et nous avons probablement tous, moi en tout cas, évidemment, éprouvé des regrets, j'aurais pu mieux faire ça et ça, aujourd'hui, je me rappelle, il y a quelques jours, et j'aurais dû être plus généreux, et plus serviable, et plus disponible, et puis, mais bien sûr, donc, ces regrets infinis, lorsque les flammes de Notre-Dame en disant, je n'en ai pas profité assez de ce bijou, humain, historié, culturel, spirituel, pour ma foi. J'ai pas profité suffisamment de Notre-Dame. Combien de choses aurais-je pu dire à notre Mère du Ciel, à Notre-Dame de Paris? Combien de compliments? La vie de l'enfant qui aime sa mère est pleine de compliments, de cadeaux, des petites pâquerettes, peut-être des roses de temps en temps, peut-être des cadeaux qui ne valent rien, mais qui valent très cher pour le cœur d'une mère. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été perdu, là. Et on dit, ce sentiment est... nous a saisi peut-être d'une manière très particulière lorsque la grande flèche, les plusieurs tonnes de plomb et de bois se sont écroulées. Cette flèche. Et nous avions l'impression que Notre-Dame, notre mère, allait partir sans qu'on pût même lui dire adieu. C'était le sentiment du soir en voyant ces flammes. Heureusement, le lendemain matin, nous avons vu que Notre-Dame n'était pas par terre. Et c'est pourquoi nous devons être pleins de gratitude, avec les petites leçons que nous venons un petit peu de tirer, pleins de gratitude, et la résolution de ne plus être jamais oublieux, en restant fidèle au bien commun. Le premier des biens communs, c'est notre foi. Et aussi les monuments. Je passe à l'aumônier des pompiers, qui a été loué par l'archevêque de Paris, et comment? Et par nous aussi. Son récit synthétisé en 2 minutes. En rentrant dans la cathédrale, en plein incendie, 2 choses étaient prioritaires à sauver. La Sainte Couronne du Christ et le Saint-Sacrement, avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. En toutes lettres, il le dit. Magnifique. Au moment même où je sortais avec le Saint-Sacrement, la lourde flèche en feu s'est écroulée. Et ça a produit des chutes à l'intérieur. Lui était dessous avec le Saint-Sacrement. Et dans ce décor de flammes et de bois incandescent qui tombait du plafond, dit-il, j'étais seul à l'intérieur, et j'ai fait une bénédiction du Saint-Sacrement. Pendant cette bénédiction qui était rapide, dit-il, j'ai encouragé Jésus à préserver et à protéger le logis, son logis. M'a-t-il entendu ? Et exaucé, s'interroge-t-il. C'est le travail peut-être magistral du général de la brigade, des pompiers, qui a mené de l'avant le travail imposant de ces pompiers, de ces hommes. Sans doute, les deux. Mais non seulement le feu s'est arrêté, mais la tour nord a été sauvée, et la tour sud, par conséquent, aussi. Puisque nous venons d'évoquer le Saint-Sacrement, vous savez, j'avais été très favorablement surpris lorsque quelqu'un, un historien ou peut-être, avait décrit, oui, mais lorsqu'on se rend compte, qu'est-ce qu'une église, c'est quoi? Et notamment une cathédrale, c'est quoi? une ville qui commence à avoir une certaine importance, qui a un évêque, et là, pour montrer un peu la puissance de cette ville, on élève au cœur de la ville une cathédrale. Selon les styles, c'est plus ou moins, selon les époques, nous sommes en train. Là, le gothique, la plus haute possible, que l'on voit de plus loin, le plus loin possible, dont on entend les cloches le plus loin possible. Mais ça, c'est une vision qui est réelle, hein, de la construction des cathédrales. Mais ce que je voulais dire, la même réalité d'une autre manière, c'est qu'est-ce qu'une cathédrale? Eh bien, c'est une hostie pour protéger cette hostie qui contient le corps, le sang, l'âme, la divinité du Christ, pour garder Dieu, un coffre fort, appelé tabernacle, pour protéger l'hostie, le corps de Dieu. Et autour de cette tabernacle, un autel, un baldaquin parfois, une chapelle, d'autres chapelles, une voûte, d'autres voûtes, des flèches, le clocher. Tout cela n'existe que pour entourer, honorer, adorer, marquer la présence de Dieu. Nous connaissons le mot de l'archevêque de Paris qui dit, pas exhaustivement, moi j'ai cherché un petit peu plus, c'est quoi les trésors, il y en a 5 ou 6 quand même, à Notre-Dame de Paris. La Sainte Couronne d'Épines, l'orgue, le maître-autel, la statue médiévale de la Sainte Vierge à l'enfant, 5, les rosaces irremplaçables. Et là, oui, j'utilise le langage de Monseigneur au petit, et cette miette de pain eucharistique. Et c'est là qu'il fait une allusion à l'aumônier qui a dit, il a eu le réflexe de prendre les deux choses les plus précieuses. Ce n'était pas le trésor de la cathédrale. On ne l'a pas énuméré dans ces 6 choses-là. Pourtant, très important. Je ne sais pas, j'imagine qu'il a été préservé. Les calices, les chasubles, tout ça. Évidemment que c'est très important. Précieux, historiquement parlant. Mais on vient de dire là les choses qui sont fondamentales. Et tout le monde est d'accord, et toi et moi aussi, nous en profitons pour dire, Seigneur, que dans ma tête et dans mon cœur, ça soit toujours très clair. Que la chose la plus importante, c'est la réalité du Dieu vivant devant nous, parmi nous, sur terre, dans les espèces sacramentelles du corps et du sang du Christ. Et que mon rapport à l'Eucharistie soit toujours quelque chose de incomparable. Et que moi, pour la reconstruction du catholicisme, pour la fidélité du catholicisme, pour la reconstruction de Notre-Dame, même du bâtiment, du monument, moi, la chose importante, c'est ma prière eucharistique, voilà ce qui est central. Dans ce contexte-là, et dans tous les contextes. Donc nous voyons que ce 15 avril, ça a été pas seulement un événement historique, culturel. Notre-Dame, c'est le lieu du culte rendu à Dieu. Notre-Dame est un lieu de foi. Et que cette cathédrale qui a été construite, on a dit beaucoup de bêtises par là, les architectes me disent qu'on a mis 50 ans. Celle de Chartres, 50 ans. Celle d'Amiens, 50 ans. Bon, on mettait 50 ans pour construire une cathédrale. Eh bien, au 12e, 13e siècle, 50 ans. Après, il y a des ajouts, etc. Mais que cette cathédrale me parle comme tout le reste, comme la création me parle de l'amour de Dieu. La cathédrale de Notre-Dame me parle de l'amour de Dieu. La cathédrale Notre-Dame me parle de vie spirituelle, me parle de foi, doit être un élément qui m'attire au point de me faire prier très souvent. Et nous qui avons la chance de passer, de prier, lorsque nous voyons le tube calciné, puis qui va être rapidement, il y a l'argent, on a obtenu tout de suite. Mais donc, ça va y aller vite fait. Et tout le monde s'y met, le président de la République en tête, donc c'est bien. Mais disons que je n'oublie jamais en voyant ça, et en pensant à cet événement que nous avons vécu à Paris, que cet incendie est l'image de la foi en Europe. que cet incendie du 15 avril, l'image de la foi en Europe qui est en ruine, en cendres, où règne l'athéisme, où règne, avant-dernière allusion ou citation, ou avant-avant-dernière, Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, ancien évêque aux armées. Mais il a dit, il y a 2 ou 3 jours, il dit, vous me permettez de parler non pas à l'archevêque, mais en polytechnicien que je suis? Eh bien, on va faire un peu de maths. Dit-il. En 2050, en France, l'islam sera majoritaire. Il le place dans ce contexte du catholicisme en ruine, de la progression de l'islam, des musulmans, dans le contexte du manque de foi des catholiques, dans le contexte de la foi qui se perd, avons-nous dit en commençant la méditation, par l'indifférence, par le fait de « je ne m'engage pas trop, ne me bouscule pas trop, moi je mène ma vie et je ne veux pas m'engager trop, moi je ne prends pas une part sérieuse dans cette reconstruction et je laisse m'envahir par des flots d'autres choses qui ne sont pas celles qui ont fait l'Europe, la France, Paris, ta foi et la mienne. » Cet incendie doit nous faire réfléchir. Cet incendie est un appel, un rappel, un réveil. Moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, dit Saint Jean-Paul II, de Saint-Jacques, je te lance, ô vieille Europe, un cri plein d'amour. Rencontre-toi à nouveau, sois toi-même, découvre tes origines, ravive tes racines, revis ces valeurs authentiques qui firent glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence dans les autres continents. L'Europe évangélisatrice, apostolique, rayonnante. 2002, à Rome, toujours Saint Jean-Paul II, le vieux continent a besoin de Jésus-Christ pour ne pas perdre son âme et pour ne pas perdre ce qu'il a rendu grand par le passé et ce qui, chez lui, provoque aujourd'hui encore l'admiration des autres peuples. Je termine 2010, un mot du pape émérite, Benoît XVI. Comme mon prédécesseur, Jean-Paul II, l'avait fait depuis Compostelle si souvent, j'exhorte le vieux continent à redonner vigueur à ses racines chrétiennes. Je pense que la phrase m'est adressée. Je pense que la phrase t'est adressée à toi. Que toute personne qui est témoin de ce que nous voyons, de ces évidences que nous avons rappelées, eh bien toute personne responsable, c'est le titre que j'ai marqué à ma petite feuille là, responsable des pierres vivantes de l'Église, eh bien que nous soyons responsable, que nous sentions responsables et que nous nous posions la question dans notre prière personnelle maintenant, pendant le salut qui va suivre maintenant, mais que nous nous posions la question dans la prière, que nous en parlions avec notre accompagnateur spirituel. Ça veut dire quoi dans mon cas précis que d'être responsable? Ça veut dire quoi que de vouloir construire, reconstruire Notre-Dame de Paris et Paris et la foi de Paris et la foi de mon secteur, de mon immeuble, de mon milieu professionnel, de ma famille? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Conseillez-moi, donnez-moi des pistes importantes. Je le veux, je le veux. Je veux dire comme la Vierge Marie, fiat. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.
The sound.